BW. Droits et libertés.
Des premiers signes que l'on veut croire encourageants, bien que modestes encore, d'autocritique du régime chinois, Sisi, qui reconnaît à demi-mot l'existence de camps où sont enfermés jusqu'à 1 million de musulmans dans l'ouest du pays. Et en cette semaine pascale, nous partons aussi à la rencontre d'un prêtre catholique défroqué, c'est-à-dire qui a abandonné sa vocation. Au micro Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Le chinois Hu Yaobang, secrétaire général réformiste du Parti communiste, est limogé en 1987. Le 15 avril 1989, 2 ans plus tard, il meurt subitement d'une crise cardiaque et plus de 100 000 étudiants chinois profitent de ses funérailles à Pékin pour réclamer des changements dans une société qui les corsette. Au fil des semaines, des manifestations de masse rassemblent des ouvriers, des intellectuels qui rejoignent les étudiants et dénoncent avec eux la corruption tout en criant leur soif de démocratie. Leur point de rassemblement, c'est la place de la Porte de la Paix Céleste, l'une des entrées de la cité interdite des empereurs chinois, un lieu névralgique de la capitale. Cette place, symbole de l'autoritarisme du pouvoir, vous la connaissez peut-être sous son nom chinois de place Tiananmen. Certains historiens estiment qu'au plus fort de cette révolte inédite, les manifestations compteront jusqu'à 1 million de personnes. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, les chars de l'armée écrasent le mouvement. Les soldats tirent dans la foule et tuent près de 300 manifestants, d'après les autorités, mais Amnesty International parle d'au moins 1300 morts. Depuis, l'évocation de ce bain de sang de la place Tiananmen, que le reste du monde a suivi en direct à la télévision, est tabou en Chine. Pas question de marquer officiellement la mémoire des victimes ni de parler des revendications d'il y a 30 ans. Alors la Chine a changé, bien sûr, ces 3 dernières décennies, mais le président Xi Jinping a resserré la vis des libertés individuelles. Toutefois, cette année, lors du congrès annuel du parti, il s'est passé quelque chose de nouveau. Le chef du gouvernement de la province autonome du Xinjiang, dans le Grand Ouest, a réagi aux accusations de défenseurs des droits de l'homme, de politiciens occidentaux et des Nations Unies, selon lesquelles, dans sa province, plus d'un million de musulmans sont internés dans des camps de redressement, pour la plupart des membres de la communauté ouïghour, du jamais vu encore. Les autorités chinoises préfèrent parler de centres de formation ou d'entraînement, et elles insistent sur le fait que le nombre de personnes qui s'y trouvent est en baisse. Alors il faut s'imaginer la scène. En plein congrès national du peuple, qui est la grand-messe d'auto-célébration du Parti communiste chinois, un journaliste britannique a l'autorisation de poser une question au Premier ministre de la province du Xinjiang pour le confronter aux dernières déclarations du gouvernement turc. Celui-ci avait parlé de camps de concentration en référence aux camps nazis durant la Seconde Guerre mondiale, des camps de redressement politique où seraient enfermés des musulmans. La Turquie s'en est émue du fait que les Ouïghours sont un peuple turcophone et musulman sunnite. Le reporter Tom Cheshire de la chaîne Sky News a posé directement la question au numéro 2 de la province du Xinjiang, Shorat Zakir. Est-ce que tous les témoignages et les reportages sur les mauvais traitements infligés aux prisonniers dans ces camps sont donc des mensonges ? Écoutez sa question et surtout la réponse du responsable chinois juste après.
Has called these centers concentration camps based on what witnesses have reported. Are all these witnesses lying about mistreatment?
Les centres de formation et d'entraînement ne sont pas ce que certains médias prétendent. Personne n'y est maltraité ni même retenu prisonnier. En réalité, ce sont des sortes d'internats pour la formation. Certains affirment que nous aurions des sortes de camps de concentration ou de redressement. Mais c'est une invention, c'est absurde et ridicule.
La stratégie de la Chine est claire, minimiser, réfuter, apaiser. Pourtant, de nombreux documents évoquent le régime de contrôle et de redressement auquel sont soumis les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes dans le Xinjiang, comme des Kazakhs. Des témoignages de victimes, des reportages de journalistes, des rapports de scientifiques, de politiciens occidentaux, de défenseurs des droits de l'homme et même des Nations Unies. Si l'on recoupe ces informations, il serait près d'1,5 million de musulmans à être internés dans des camps du nord-ouest de la Chine, en majorité des Ouïghours donc, qui représentent environ la moitié de la population de la province. Patrick Poon travaille chez Amnesty International à Hong Kong et il connaît bien cette stratégie de la minimisation adoptée par le pouvoir chinois.
C'est la réponse de la Chine à la pression qui augmente à l'international ces derniers mois. Le gouvernement chinois prétend que ces institutions ne sont là que pour former des gens, mais dans les faits, ils endoctrinent les minorités ethniques. Ils veulent que ces gens acceptent qu'ils sont eux aussi chinois. Mais ils les forcent. Et quand quelqu'un refuse ce lavage de cerveau, eh bien, il est maltraité, torturé. Nous le savons grâce aux témoignages d'anciens prisonniers. Ce manque de transparence est très inquiétant. Because there's no
transparency at all. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi en début d'émission je vous parlais de progrès timide. C'est que la Chine a longtemps nié jusqu'à l'existence de ces camps. Et maintenant le pouvoir joue sur les mots. Les textes officiels autorisent en effet les autorités provinciales du Xinjiang à déradicaliser des personnes jugées extrémistes. Alors détention arbitraire, sans procès, propagande forcée, correction du comportement... Tout cela est permis, mais là encore, le premier ministre de la province relativise.
Tous ceux qui sont dans les centres de formation et d'entraînement apprennent à écrire et suivent des cours de langue. Ils apprennent le mandarin et font des progrès rapides, mais ils sont de moins en moins nombreux dans ces institutions. Et lorsque notre société n'aura plus besoin de ces centres, ils seront supprimés.
Et cette déclaration a été comprise comme une porte ouverte à un peu moins de répression, ce qui n'a pas empêché l'émissaire américain chargé de la liberté de religion de réclamer une enquête indépendante dans ces camps, ainsi que la libération des musulmans emprisonnés dans le Xinjiang. Ce que réclame également son homologue des Nations Unies d'ailleurs. Début avril, 24 sénateurs et 19 membres de la Chambre des représentants démocrates et républicains ont signé une lettre pour demander à l'administration Trump de cibler Chen Kuangguo par des sanctions. Il s'agit du chef du Parti communiste chinois dans la région du Xinjiang qui avait auparavant occupé le même poste au Tibet, où l'on sait aussi comment il a géré les droits des minorités. Cette semaine, les chrétiens célèbrent Pâques, la fête la plus importante de leur dogme, puisqu'elle relate non seulement la mort, mais aussi et surtout la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas là pour parler théologie. D'ailleurs, si la religion vous intéresse, je vous signale que nous vous préparons deux émissions spéciales sur ce thème qui seront diffusées respectivement vendredi 19 et lundi 22 avril, qui sont des jours fériés en Allemagne. Mais qui dit christianisme dit aussi église. L'église catholique romaine est secouée en ce moment en Allemagne aussi de débats vigoureux sur la crise des vocations, le célibat obligatoire des prêtres jugé comme un problème par certains, l'impossibilité faite aux femmes de devenir prêtres, mais aussi et surtout le scandale des abus sexuels et de viols d'enfants par des hommes d'église. Ces discussions ébranlent aussi des prêtres eux-mêmes. C'est le cas de Thomas Frings qui a décidé d'abandonner sa vocation de curé.
J'étais toujours le dernier ou l'avant-dernier à quitter la paroisse. C'était toujours moi qui éteignais la lumière. L'église restait debout, mais la paroisse se vidait. J'ai beaucoup investi en tant que prêtre, mais j'en ai eu assez. Je ne veux pas passer ma vie comme ça, à être toujours le dernier qui s'en va jusqu'à ma retraite.
Le nom de Frings est connu des catholiques en Allemagne. Il est le petit-neveu d'un célèbre cardinal, Joseph Frings, né en 1887 et mort en 1978, qui a été archevêque de Cologne et l'un des plus grands d'Allemagne au XXe siècle. Thomas Frings, le petit-neveu donc, a dirigé la paroisse de la Sainte-Croix de la ville de Münster de 2009 à 2016. Mais à cette date, il a jeté l'éponge, il a demandé à son évêque de le mettre en congé sans solde et il est parti pour un an en retraite dans un monastère des Pays-Bas. Fin 2017, il n'y avait plus en Allemagne que 13 560 prêtres catholiques. Beaucoup sont partis depuis à la retraite, un record négatif.
Inzwischen haben wir viele Getaufte.
Nous avons beaucoup de baptisés, mais peu de prêtres. Il va falloir repenser l'Église en partant des fidèles, pas du clergé.
Et effectivement, la relève ne se prépare pas. La même année, il y a 2 ans donc, seuls 74 hommes se préparaient au séminaire à devenir prêtres. Pour prendre la mesure de cette crise des vocations en Allemagne, il faut savoir que le pays compte de nombreux diocèses et plus de 10 000 paroisses. En 2018, 60 hommes ont été ordonnés prêtres catholiques. À titre de comparaison, ils étaient 1986, il y a 24 ans. Thomas Frings est désormais ecclésiastique à Cologne, qui compte 38 000 catholiques et 26 églises. Il veut œuvrer maintenant à améliorer le travail social de l'Église catholique.
Klar ist, das territoriale Prinzip wird auch da nicht mehr funktionieren, sondern
le principe de division du territoire ne va plus fonctionner. Il faut chercher à répandre la parole de l'Évangile en vivant avec les gens qui sont sur place, et pas seulement les catholiques dont certains n'ont pas envie de participer à la vie de la paroisse. Non, il faut aussi s'adresser aux autres. Nous ne savons pas encore quelle voie emprunter, mais nous cherchons. La difficulté, c'est que nous commençons ce travail à un moment où l'Église baigne dans la fange du scandale sur la pédophilie, et son image a encore pris un coup. C'est vraiment très compliqué de lancer maintenant un nouveau système.
Es sind ganz, ganz schwere Startbedingungen für dieses neue System.
Droits et libertés, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Axel Dorloff et Christophe Strack pour les sons. Retrouvez-nous en podcast sur dw.com/français. Et pardon pour le manque de voix féminine dans cette émission. Il va falloir rattraper ça la prochaine fois. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même endroit, même heure.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ce ciel brouillé, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Corps révolté, luxe corps.